Bonsoir, chers amis. Nous retrouvons donc et pour notre première séance du séminaire de master qui est cette fois-ci consacrée à une approche prudente, parce que c'est un problème extrêmement compliqué et vaste, de la mystique syriaque, de la spiritualité syriaque. Alors d'abord, pourquoi cette approche de la spiritualité syriaque? Parce qu'il faut être bien conscient que la spiritualité orthodoxe a été largement influencée aussi par la spiritualité syriaque. Et c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a deux sources, en quelque sorte, de la spiritualité syriaque. L'une qui est plutôt liée au monde hellénistique et qui a son origine plutôt en Égypte, et l'autre qui est plutôt liée à un monde sémitique et qui a sa source dans ce qu'on peut appeler en gros la Syrie et l'Irak actuel. Les deux, si vous voulez, se marquent par des différences qui sont assez sensibles. Par exemple, la première spiritualité va insister sur le nous, sur l'intellect. La deuxième spiritualité syriaque insistera sur le cœur. Puis on arrivera à une synthèse des deux spiritualités assez rapidement. Et par exemple, vous avez des grands spirituels comme Diadoque de Fautissé, qui sont d'excellents exemples de cette synthèse. Et l'on peut dire que désormais, la spiritualité orthodoxe va fonctionner en fonction de ces deux sources. Alors, donc l'approche que je vais faire de la spiritualité syriaque est déterminé, si vous voulez, par, l'arrière-plan de la spiritualité orthodoxe. C'est-à-dire, c'est en fonction de la spiritualité orthodoxe que je vais approcher la spiritualité syriaque. Voilà. Et j'ai conçu plusieurs cours, une série de 6 cours. Donc aujourd'hui, nous allons faire une présentation générale. Puis le deuxième cours sera consacré à la réception syriaque des Vagres le Pontique, qui était considéré comme un des maîtres de la spiritualité syriaque, et la condamnation des origénistes au concile de Constantinople II. La troisième séance sera consacrée à ce qu'on appelle les homélies macariennes, qui sont assez problématiques, et qui ont influencé largement la spiritualité orthodoxe, et elles sont souvent citées par les grands auteurs spirituels, et en particulier par Saint Grégoire Palamas, par exemple, qui cite les homélies macariennes. Le quatrième cours, alors on abordera cette fois-ci plus franchement la spiritualité et les mystiques syriaques avec Saint Isaac le Syrien, donc inutile d'insister sur son importance. Le cinquième cours abordera un autre grand spirituel qui est assez peu connu et qu'on redécouvre maintenant avec bonheur, Jean de Dalyata. Et cette fois-ci, on est vraiment en plein dans la mystique syriaque. Et le dernier cours sera consacré à une comparaison, pourrait-on dire, voir un peu les influences réciproques de la mystique juive et de la mystique syriaque. Ce n'est pas déplacé du tout parce que la spiritualité syriaque a évolué dans un milieu qui était profondément influencé par ses racines sémitiques et judéo-chrétiennes. Et donc il y a des liens, il y a des ponts assez forts entre la mystique juive et la mystique syriaque. C'est ce qu'on verra dans le dernier cours. Voilà, donc ça, ce sont les séances qui sont prévues. J'ai fait une petite bibliographie. Vous aurez tout ça, bien sûr, sur le site, aussi la liste des cours comme la bibliographie. Alors, évidemment, j'ai mis dans cette bibliographie un certain nombre d'ouvrages qui sont sélectionnés en fonction du cours. C'est-à-dire, je ne prétends pas, dans cette bibliographie assez limitée, avoir fait le tour de la spiritualité de la mystique syriaque. On trouve d'ailleurs vous trouverez d'autres livres, d'autres ouvrages, d'autres traductions, par exemple d'auteurs syriaques, dans la collection des sources chrétiennes, où les auteurs syriaques, d'ailleurs, les livres d'auteurs syriaques ont une couverture rouge. On en trouve aussi dans la collection Spiritualité orientale. Par exemple, vous trouvez les homélies, les poèmes d'Ephrem le Syriaque, qui sont dans la collection Spiritualité orientale, avec un grand Syriac 6 ans, qui était le père Brock. Enfin, vous trouvez des ouvrages, par exemple, les Odes de Salomon, dans la collection Les Pères dans la foi, Mine Les Pères dans la foi. Pour être complet, je vous signale que dans l'ouvrage de la Pléiade, qui s'appelle Écrit apocryphe chrétien, contient beaucoup de traductions de spirituels syriaques. Enfin, je voudrais vous signaler qu'il vient de sortir un ouvrage de synthèse, vraiment bien fait. Je trouve que c'est très bien. De Françoise Briquel, B-R-I-Q-U-E-L, Chatonnet, C-H-A-T-O-2-N-E-T, et Muriel Desbiers. Vous aurez tout ça sur le site. Hein. Le monde syriaque sur les routes d'un christianisme ignoré, aux éditions Les Belles Lettres, en donc 2017. C'est un très bel ouvrage, avec des photos, avec des cartes, et qui essaye de faire une synthèse, un panorama du monde syriaque, de la culture syriaque, depuis les origines jusque vers ce qu'on peut appeler la fin, il y avait le 14e siècle. C'est un beau cadeau de Noël. Donc si vous avez des choses, des idées pour un livre pour Noël, je vous conseille cet ouvrage dont vous trouverez les références sur le site. Cette spiritualité a donc une double caractéristique. D'une part, elle est très enracinée dans ses sources judéo-chrétiennes, et d'autre part, elle est fortement liée aux traditions apostoliques. Et je voudrais vous présenter, avant de commencer, deux cartes pour situer un peu les choses. Je ne sais pas si on peut faire le point sur les cartes, là. Par exemple, celle-ci. Voilà, vous avez ici l'ensemble du monde syriaque, avec les deux sièges patriarcaux, donc le syriaque de l'Est, c'est Ctésiphon, qui est là, pour les Syriaques de l'Ouest, c'est Edes. Edes, que j'ai souligné et qui est là. Voilà. Donc vous avez cette première carte et vous en avez une autre avec les différentes régions. Voilà. Donc là, vous avez les différentes régions du monde syriaque. Attendez, excusez-moi, si je vous la montre à l'envers, ça ne va pas. Attendez, non, c'est bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez toujours, n'est-ce pas, ces deux régions. Et vous voyez que Edes, par exemple, se trouve dans une région qui s'appelle l'Osroène. O-S-R-H-O-E-N-E. Osroène. Alors que Ctésiphon, c'est le site Ctésiphon, se trouve quasiment au niveau de Bagdad. Voilà, ici. Ça va comme mise au point ? Bon. Voilà, donc vous voyez, il y a deux mondes syriaques, en fait, qui se font face, pourrait-on dire, un monde syriaque de l'Ouest et un monde syriaque de l'Est. Mais en fait, donc, il n'y a pas de trop grosse séparation entre les deux. Pour ce qui est de la culture syriaque, en revanche, au niveau politique, oui, là, il va y avoir séparation et affrontement, dans la mesure où le monde syriaque de l'Ouest va être dominé par l'Empire romain d'Orient, enfin, c'est-à-dire le monde dit byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain, alors que de l'autre côté, nous aurons une région qui va être dominée par le monde perse, c'est-à-dire les Sassanides, etc. Bon, tout à fait autre chose, tout à fait autre chose. Et monde perse où domine la religion mazdéenne, le zoroastrisme, où on adore le dieu Ahura Mazda, etc. Et les chrétiens, d'ailleurs, vont être durement persécutés dans cette région, parce qu'ils vont être souvent considérés un petit peu comme la cinquième colonne, c'est-à-dire comme étant faisant le lien avec l'Empire romain d'Orient. Voilà. Donc, deux cartes qui seront sur le site et que vous pourrez consulter à loisir. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui caractérise un peu cette spiritualité, c'est ses liens avec le monde sémitique et on peut dire même ses liens avec, avec l'Évangile, avec le Nouveau Testament. Parce que le syriaque, c'est la langue que parlait le Christ, c'est-à-dire c'est de l'araméen. Le Christ parlait l'araméen, l'araméen était la langue parlée dans toute la région. Et le syriaque, c'est simplement une manière, si vous voulez, d'écrire l'araméen qui s'est développé surtout à l'origine dans la région d'Edès. Effectivement, le premier récit que l'on a, d'ailleurs, est un récit qui nous montre des liens très étroits, puisqu'il s'agit de la doctrine d'Adai, ou l'histoire du roi Abgar et de Jésus. Le roi Abgar, qui est un roi d'Edès, est souffrant, et il a des envoyés qui sont en Palestine, et qui vont contacter Jésus, si c'est jour. Là, je vous apporte la tradition syriaque, hein, pour qu'il vienne soigner le roi Abgar d'Edès. Et d'ailleurs, Le Christ, donc, va répondre à ce roi d'Édesse, Agar, en lui disant « Heureux es-tu, toi qui, m'ayant pas vu, a cru en moi, car il est écrit de moi que ceux qui me voient ne croiront pas en moi, et que ceux qui ne me voient pas, ceux-là croiront en moi. Tu me demandes d'aller chez toi, mais ce pourquoi j'ai été envoyé ici est désormais achevé, et je remonte auprès de mon Père qui m'a envoyé. Dès que je serai remonté près de lui, je t'enverrai un de mes disciples pour soigner et guérir ta maladie, quelle qu'elle soit, et tous ceux qui sont auprès de toi, il les convertira à la vie éternelle. Ta ville sera bénie, enfin, aucun ennemi n'aura pouvoir sur elle. » Et après l'ascension du Christ, toujours selon la tradition syriaque, l'apôtre Thomas délègue Adai, A-D-D-A-I, à Édesse, qui donc va venir pour soigner le roi Abgar et qui sera à l'origine de conversions multiples et de construction d'églises. Par la suite, on va insister sur cette protection accordée par Jésus à la ville d'Édesse dans la tradition syriaque. Et en plus de cela, viendra se greffer une autre tradition suivant laquelle l'envoyé du roi Abgar, qui s'appelait Hanan, était aussi un peintre, et donc il a fait un portrait de Jésus. Et donc là, nous avons la première mention, une des plus anciennes mentions de Jésus, qui sera reprise par la suite avec la tradition qui viendra plus tard, du linge qui est posé sur la figure de Christ et qui laisse son empreinte sur le linge. Et c'est à l'origine des icônes qui sont considérées comme non faites de main d'homme, Achillopiites. Et cette icône, d'ailleurs, va jouer un certain rôle dans la crise iconoclaste, dans la querelle iconoclaste. Elle va être acquise par un empereur byzantin auprès des musulmans qui, à l'époque, tenaient Édesse, et transférée à Constantinople, et finalement, elle va disparaître après le sac de Constantinople en 1204. Deuxième personnage aussi qui va jouer un certain rôle, c'est Marie, Marie, qui est envoyée par Adai depuis Édesse, selon des écrits syriaques, et Marie va se rendre le long du Tigre, où il va là aussi prêcher et convertir la population. Où va s'établir le siège patriarcal de l'Est, près de Séleucie, Ctésiphon. Voilà. Parmi ces personnages donc apostoliques, il faut tenir compte, bien sûr, de Thomas, qui, Thomas, est un mot syriaque. Thomas, ça veut dire le jumeau en syriaque. Et en grec, on dit didyme. Donc on a l'apôtre Jude, didyme, Thomas, qui est cité dans les sources. Et didyme, ça veut dire Thomas, jumeau en grec, et Thomas signifie aussi jumeau. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi ? Alors, parce qu'il était visiblement un jumeau, et la tradition gnostique dira qu'il était le jumeau du Christ. Je laisse la tradition gnostique. Voilà. Donc on a ce personnage de Thomas qui, dont les reliques seront conservées à Édesse, et qui va selon la tradition syriaque, parcourir la route de la soie, en fait, donc tout ce trajet, et aller jusqu'en Inde pour convertir la population. Nous avons des textes très anciens, qui sont conservés, par exemple, dans ce qu'on appelle les actes de Thomas, qui sont des écrits apocryphes, mais qui sont tissés de différents textes, et en particulier l'hymne de la Perle, qui est un texte très poétique. Je me permets peut-être de vous en lire un passage pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que c'est. Hymne de l'apôtre Judas Thomas quand il était au pays des Indiens. Lorsque j'étais petit enfant et que j'habitais dans mon royaume, la maison de mon père, et que dans la richesse et les délices de ceux qui m'élevaient, je me reposais, de l'Orient, notre patrie, mes parents m'équipèrent et m'envoyèrent des richesses de notre trésor, ils me confectionnèrent avec abondance un bagage. Il était grand et léger, afin que tout seul je puisse le porter. C'était l'or de Beth-Elaïe, de l'argent de Gazak la Grande, des calcédoines de l'Inde et des agates de Beth-Kouchan. Et ils me ceignirent d'un dur acier qui brise le fer, puis ils m'enlevèrent le splendide vêtement que dans leur amour ils avaient fait pour moi, ainsi que la toge d'écarlate qui était tissée, mesurée à ma taille. Ensuite, ils firent avec moi un pacte et l'inscrivirent sur mon cœur, afin qu'il ne soit pas oublié. Si tu descends en Égypte et que tu rapportes la perle unique, celle qui est dans la mer, tout près du serpent qui siffle, tu revêtiras ton splendide vêtement et la toge qui repose sur lui, et avec ton frère, notre second, tu seras l'héritier dans notre royaume. Je m'arrête là. Vous voyez, c'est une manière de s'exprimer qui est très inhabituelle pour nous, qui est tout à fait poétique. C'est un texte, en fait, gnostique, très influencé par la gnose. Et pourquoi c'est un texte gnostique? La gnose explique, si vous voulez, qu'il y a un monde parfait, qui est le plérôme, où se trouve le Dieu parfait, qui est au-delà de tout. Et puis, que par une série de dégradations, il y a eu le monde matériel, qui est le monde du mal, en fait. Et que l'âme humaine est une étincelle divine, si vous voulez, de ce Dieu suprême, extérieur à tout. Et qu'en fait, Jésus, parce que ce sont des chrétiens, ils sont gnostiques, mais ce sont des chrétiens quand même, ils croient dans le Christ, et que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, et la nouvelle, c'est le retour de l'âme vers la maison du Père. C'est-à-dire que il faut s'affranchir du monde matériel, il faut s'affranchir du monde mauvais, il faut remonter, que l'âme remonte, en quelque sorte, vers le Dieu parfait, qui est au-delà des planètes et des sphères, suivant la conception de l'époque. Voilà. Donc ça, c'est ce qui influence directement l'hymne de la paix. Un autre texte très important, à mon avis, c'est l'évangile de Thomas. Et là, c'est tout à fait autre chose. Explique-moi un peu ce que c'est. L'évangile de Thomas, c'est un texte qui a été retrouvé parmi les textes coptes, donc chrétiens d'Égypte, coptes, qui a été retrouvé à Nag Hammadi. Nag Hammadi, on le sait, c'est le lieu où on a retrouvé toute une série de textes coptes et qui sont en général des textes gnostiques. On a retrouvé une bibliothèque gnostique complète qui a été cachée à cet endroit au IVe siècle environ. Et ce texte de cet évangile de Thomas a été étudié de près. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il se présente sous une forme particulière. Il se présente sous la forme de logia. Qu'est-ce que c'est que les logia ? Les logia, ça veut dire les dits, ce que des petites sentences dites par le Christ, en quelques lignes, 3-4 lignes. Comme ça, ça se suit. C'est-à-dire que c'est une forme qui est proto-évangélique, en quelque sorte. Et on peut supposer que les logia ont précédé la rédaction des évangiles. C'est-à-dire qu'on a commencé par recueillir les paroles du Christ, qu'on a mis comme ça un petit peu à la queue leu-leu, et avant même que l'on puisse rédiger les évangiles. En plus de ça, l'évangile de Thomas est considéré comme très ancien. Il est considéré comme étant du IIe siècle. Donc, et en plus de cela, son éditeur, enfin celui qui l'a le plus étudié, constate que, si vous voulez, d'abord, il y a peu d'éléments gnostiques dans ce texte, et qu'en plus, il pourrait s'agir d'éléments qui ont été rajoutés, qui ont été réintroduits par la suite. Et donc là, on aurait en fait un texte qui serait à l'origine, donc non gnostique, c'est ce qu'il sous-entend, et qui serait très proche, enfin qui serait par la date en tout cas, de la rédaction des évangiles canoniques. Donc un texte très ancien. Voilà. Et donc cet évangile selon Thomas, je peux vous en lire un petit bout si vous voulez, pour que vous sachiez ce que c'est. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, il faut que... Alors évidemment, il y a une petite touche, gnostique. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme, Jude, Thomas a écrites. Bon, il a dit, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Jésus a dit, que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il l'aura trouvé, il sera troublé. Quand il sera troublé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous nous connaîtrez, alors on vous connaîtra et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Si au contraire vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. Jésus a dit, l'homme vieux dans ses jours n'hésitera pas à interroger un petit enfant de 7 jours à propos des lieux de la vie et il vivra. Car beaucoup de premiers seront derniers et ils deviendront un seul. Jésus a dit, reconnais ce qui est devant ta face et ce qui est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Voilà, je m'arrête. Vous voyez le genre de texte. Donc, vous voyez qu'à la fois c'est très proche parfois des textes de l'Évangile. Vous voyez aussi qu'il y a quand même une petite touche gnostique. Et que si vous voulez la spiritualité de ce monde syriaque au moins dans ses débuts elle est marquée par la gnose d'une certaine façon et elle est marquée par un deuxième courant qu'on pourrait appeler un courant ascétique très rigoureux qui va se manifester de différentes façons. Et en particulier, ce que l'on va appeler les fils ou les filles de l'Alliance. Les Bnei Kiyamat en syriaque. ou Bat Kiyamat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des gens qui se dévouent entièrement au service de l'Église, qui vivent dans la communauté, qui observent une ascèse stricte et qui en particulier ne sont pas mariés. Voilà. Et donc ça, ce sont les fils et les filles de l'Alliance. C'est un courant, des groupes qui ont existé dans la société syriaque. Et on verra plus tard, d'ailleurs, que de ces groupes vont naître aussi d'autres tendances, et des tendances encore plus rigoureuses du point de vue ascétique. Des traditions aussi, bon, je ne veux pas trop insister, la tradition des rois mages, donc évidemment reprise par toute la tradition syriaque orientale, c'est-à-dire celle qui se situe en Mésopotamie et au-delà. Et alors, dans les textes syriaques, ce qui est intéressant, c'est il n'y a pas trois rois mages, mais il y en a 12, leur histoire est extrêmement répandue dans tout l'Extrême-Orient. On trouve même leur mention sur une stèle qu'on a retrouvée en Chine, et qui est écrite en chinois. On a retrouvé le début, d'ailleurs, sur cette stèle du credo de Nicée, et on a retrouvé aussi une allusion aux 12 mages. Et dans cette tradition aussi, on va introduire des éléments zoroastriens. Par exemple, la tradition fait venir les 12 rois mages d'un lieu saint qui s'appelle le Shaoxian, le sauveur, et c'est là d'où le sauveur zoroastrien doit venir. Ils ne trouvent pas le Christ dans une mangeoire, mais ils le trouvent dans une caverne. Et donc là, vous avez un rapprochement avec Mitra, qui est aussi un dieu de la région iranienne. Je passe là-dessus. Mais bon, c'est intéressant de voir comment ces traditions chrétiennes évangéliques se répercutent dans le monde syriaque. Et finalement, bon, au 8e siècle, par exemple, on va avoir une tentative de réconciliation de la tradition apostolique et de l'histoire des mages en montrant ceci, venant se faire baptiser par Thomas. Parmi les autres témoignages anciens, nous avons pas mal de témoignages. Nous avons des témoignages très poétiques, encore une fois, les Odes de Salomon, qui sont des textes poétiques qui datent du 1er et du 2e siècle. Par exemple, je vous lis un passage. « Mon cœur a été taillé, sa fleur est apparue, la grâce qui a germé et a porté les fruits pour le Seigneur, car le Très-Haut m'a circoncis par son Esprit Saint. Il a sondé mes reins et rempli de son amour. Sa circoncision a été mon salut, j'ai couru sur la voie de la paix, dans la voie de la vérité. » Du commencement jusqu'à la fin, j'ai reçu sa connaissance et j'ai été ancré sur le roc de vérité, là où il m'a fixé. Des eaux parlantes ont touché mes lèvres, de la généreuse source du Seigneur, j'ai bu et j'ai été enivré de l'eau vivante et immortelle. Mon ivresse ne fut pas perte de raison, mais abandon de vanité. Je me suis tourné vers le Très-Haut, mon Dieu, et je me suis enrichi de ses faveurs. J'ai rejeté la folie répandue sur la terre. Je m'en suis dépouillé, je l'ai rejeté loin de moi. Le Seigneur m'a renouvelé par son vêtement et m'a attiré à lui par sa lumière. Vous voyez donc une expression spirituelle, mystique, très forte, très, très profonde. Et on peut dire que d'ailleurs que tous les textes syriaques sont quasiment des textes poétiques. y compris d'ailleurs les textes astronomiques ou mathématiques, etc., ils sont écrits dans une prose rythmée, où il y a un rythme, et ce qu'on appelle des mèmeries. Voilà. Et donc la poésie règne, si vous voulez, sur ce monde, et on voit que cette poésie peut exprimer des choses très fortes. On peut dire quelques mots d'un personnage aussi qui est Bardesan d'Édesse, qui a vécu autour de 154-223, mais son texte, on connaît un seul texte de lui, c'est qu'il y a un dialogue sur le destin, au livre des lois du pays, et son texte est influencé là aussi par la gnose. Il va développer toute une cosmogonie pour expliquer l'origine du mal. La matière est présentée comme coéternelle à Dieu, et suite à un accident, les ténèbres la pénètrent, et le chaos nécessite l'intervention de Dieu, qui envoie la puissance de la parole originaire, le logos, qui a la responsabilité de la création. Donc il y a des influences gnostiques évidentes. Et donc on voit qu'on est dans un milieu où l'influence de la gnose se fait sentir, l'influence ascétique se fait sentir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les écritures vont être traduites, et donc on a des traductions en syriaque, d'abord de la Bible, c'est ce qu'on va appeler la Pshita, la Peshita, P-E-S-H-I-2-T-A, qui veut dire simple en fait, qui date autour de 150. Et alors, l'intérêt, si vous voulez, de cette traduction de la Bible, c'est qu'elle est faite directement à partir de l'hébreu. Et donc, elle est différente de la Septante, c'est une autre version de la Bible, qui est faite directement à partir de l'hébreu, et qui a été faite très probablement par des juifs, par des gens de la communauté juive, et on le sait parce que on trouve dans cette traduction des traditions qui font référence à des légendes juives, si vous voulez, targum juifs. Donc on voit que ces targum, ces traductions juives ont influencé directement la Peshitta. Et par exemple, lorsqu'il situe le lieu où s'est échoué l'arche de Noé sur le mont Cardou en Irak. Soit sont des juifs, soit sont des convertis qui ont réalisé cette traduction. Et donc on voit que, si vous voulez, l'Église, le christianisme dans ses débuts, doit en quelque sorte se former, se formaliser en fonction aussi de toutes sortes d'influences qu'il peut recevoir. Enfin, il y a eu d'autres versions de la Bible, dont une version syro-hexaplaire qui date du 7e siècle et qui, en fait, est une version qui va prendre la version dite de la Peshitta, donc la version syriaque, et qui va la relire en fonction du travail qu'avait fait Origène. Vous savez qu'Origène avait fait tout un travail qu'on appelait les hexaples, et qu'il avait écrit sur plusieurs colonnes les différentes versions grecques de la Bible. Et la version hébraïque et la version hébraïque retranscrite en grec. Donc il y avait 6 colonnes en tout, et donc c'est en fonction d'une de ces colonnes que va être constituée la Peshitta qui va être revue et corrigée et qui va donner la version syro-hexaplaire au 7e siècle. Voilà. Outre cette version de la Bible, donc qui est une version qui est, vous voyez, qui se veut en tout cas assez proche, la plus proche possible de la tradition hébraïque. On peut remarquer d'ailleurs que les versions qu'Origène retranscrit dans ces exemples sont des versions juives souvent, qui ont été écrites dans un souci de conformité avec la version hébraïque et qui sont souvent des traductions au mot à mot. Et donc, on a là une tendance, si vous voulez, dans cette version de la Bible, une tendance à coller au plus proche avec la version hébraïque. Ceci donc pour la Bible, pour l'Ancien Testament. Et on a aussi une version du Nouveau Testament. Et cette version est aussi assez ancienne. Et elle est l'œuvre de Tatien, donc un personnage bien connu, T-A-T-I-E-N, qui est connu, qui a vécu à Rome en partie, qui est connu pour son ascétisme, si vous voulez. Alors, je vous dis tout de suite le mot, comme ça, on n'en parlera plus. On appelle ça l'encratisme. E-N-C-R-A-T-I-S-M-E. Je suis désolé d'employer des mots aussi techniques, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. L'encratisme, c'est une forme d'ascèse, si vous voulez, particulièrement rigoureuse, et surtout qui est une ascèse qui s'oppose au mariage. C'est-à-dire que c'est une ascèse qui insiste sur le célibat. Voilà. Et donc on voit là, que, si vous voulez, que le monde syriaque à ses débuts est aussi traversé par ce courant, disons ascétique, pour ne pas dire encratique, et que Tatien va rédiger donc une espèce de concordance, une espèce de version unifiée des quatre évangiles qu'on va appeler le Diatessaron, D-I-A-T-E-2-S-A-R-O-N, Diatessaron, qui date d'environ 170, et qui essaye, cette version il essaye de gommer, si vous voulez, les... Vous savez qu'il y a des différences quand même entre les quatre évangiles. Ils ne disent pas tous exactement la même chose. Et donc, Tatien va essayer de faire en sorte qu'ils disent tous la même chose. Bon. Et en même temps, il insiste sur le côté ascétique des évangiles. Donc, sa version, si vous voulez, des évangiles, qui est quand même ancienne, qui date de 170, donc nous sommes au IIe siècle, va être condamnée par un évêque d'Édesse qui s'appelle Rabula, R-A-B-U-L-A, au Ve siècle, et en fait elle va disparaître et elle n'est plus attestée autrement que par les commentaires qu'on en a fait, et en particulier nous avons un très grand personnage, si vous voulez, qui a fait un commentaire du Diatessaron, c'est Saint Éphrem qui au IVe siècle, va écrire un commentaire du Diatessaron. Voilà, donc, si vous voulez, pour les écrits un peu à l'origine de la spiritualité du monde syriaque, donc on voit que cette spiritualité, comme je vous l'ai dit, est marquée par l'ascétisme, est marqué par des tendances gnostiques, est marqué par ses attaches judéo-chrétiennes. On sait aussi que des populations vont être souvent déportées. Par exemple, quand, étant donné qu'il y a un conflit permanent entre le monde, entre l'Empire perse et le monde de l'Empire romain, des populations vont être déportées vers l'Empire perse et donc vont introduire aussi, vont contribuer à développer le christianisme dans l'Empire perse. L'Empire perse, lui, a sa tête depuis l'an 224 de ce qu'on appelle les Sassanides, S-A-S-A-N-I-D-E, c'est-à-dire des Persans, qui avaient donc une religion officielle qui est le mazdéisme. Je n'insiste pas trop, simplement ces mages qui étaient les prêtres de du mazdéisme ont été très hostiles au christianisme et sous les règnes d'un roi qui s'appelle Shapur, qui se situe entre 309 et 379, les chrétiens vont être extrêmement persécutés. On peut dire que les chrétiens dans l'Empire perse vont connaître une situation à peu près comparable à celle qu'ils vont connaître dans l'Empire romain, avant Constantin. C'est-à-dire que ça va être une succession de persécutions. On peut dire aussi que ce qui caractérise le christianisme dans l'Empire perse, c'est aussi une extension. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une extension vers l'Extrême-Orient et en particulier à la fin du 4e siècle où il va y avoir une période de tolérance, l'Église perse va réunir en 410 un synode, le synode de Séleucie Ctésiphon, qui va adopter les décisions du concile de Nicée. Alors, au 5e siècle, c'est une époque de troubles qui sont liés aux controverses christologiques. D'une part, nous avons Édesse, avec une école théologique qui est fondée par un évêque qui est antérieure à l'arrivée d'Éphrem, de Saint-Éphrem à Édesse. Saint-Éphrem lui-même enseignait à Nisibe, où il y avait une école fondée par l'évêque Jacques de Nisibe. En 363, c'est la défaite de Julien l'Apostat devant les Perses. Et vous savez d'ailleurs que Julien l'Apostat a trouvé la mort dans cette défaite. À ce moment-là, les chrétiens de Nisibe durent quitter la ville qui était occupée par les Perses et ils se replient du côté de l'Empire romain. Donc c'est l'avantage, si vous voulez, de Nisibe, qui se trouve près de la frontière avec l'Empire romain, c'est qu'ils pouvaient trouver un lieu de refuge et ils vont s'installer à Édesse qui a d'ailleurs été nommée l'école des Perses parce que beaucoup de jeunes Perses s'y rendaient. Au moment de la controverse nestorienne, nous avons l'école est dirigée par un certain Ibas d'Édesse, ou Iba, qui se rattache lui-même à l'école d'Antioche, c'est-à-dire à Théodore de Cyre ou Théodore de Mopsueste. Mais il y a aussi à Édesse des Cyriliens, c'est-à-dire des gens qui se situent dans la mouvance influencée par Saint Cyril d'Alexandrie, dont l'évêque Raboula, donc, qui était évêque à Édesse en 415 et 436, qui va faire exiler Ibas, qui était maître de l'école d'Édesse, et à la mort de Raboula, le courant anti-cyrilien va reprendre le dessus, et Ibas va succéder à Raboula comme évêque de la ville en 436. L'école d'Édesse eut ensuite pour maître un certain Narsaï, N-A-R-S-A-I-Tréma, de 437 à 457, mais donc nous allons avoir là des controverses entre Cyriliens et Diophysites qui vont continuer. Philoxène de Mabouk va bien sûr exercer une influence, et en 433, Narsaï va s'établir à Nisibe, en Perse, et il va rouvrir l'école de Nisibe. Et en 489, l'école d'Édesse va être fermée par l'empereur Zénon, qui considère que cette école est des trop d'ordonnance nestorienne. Donc l'église de Perse va adopter ce qu'on va appeler le nestorianisme, et il refuse les anathèmes portés contre Nestorius, et ils suivent comme théologiens essentiellement Théodore de Mopsuès, qui devient le maître en exégèse et en théologie de cette église, comme saint Cyrille est le maître de l'église d'Égypte. Donc on va avoir, si vous voulez, une influence cyrillienne qui va s'exercer dans cette zone, plutôt vers la zone d'Édesse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette influence cyrillienne va provoquer aussi la venue, par exemple, de moines syriaques en Égypte. Et dans le Wadi Natroun, donc qui se trouve entre le Caire et Alexandrie, vous avez un des monastères qui s'appelle le Der Suryani, c'est-à-dire le couvent des Syriens. Et on a retrouvé des fresques splendides et des inscriptions syriaques. Dans cette période du IVe siècle, je voudrais vous citer un ouvrage qui est quand même assez intéressant, qui s'appelle le Livre des Degrés. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce livre, si vous voulez, prend acte du fait qu'il y a dans l'Église différents degrés. Alors, le fait est que, si vous voulez, par exemple, il y avait un courant qu'on va appeler aussi le courant des Messaliens, dans lequel on considérait qu'il y avait ceux qui étaient les justes, et les justes travaillaient, et ceux qui étaient les parfaits, et les parfaits priaient. Donc il y a une séparation entre les justes et les parfaits. À cela va s'ajouter un courant ascétique encore plus accentué, qui va être constitué par des ascètes qui vont rompre, eux, complètement avec ce mouvement, et même avec l'Église en général, pour prier d'une manière plus intense, et certains s'en vont même, comme ça, dans la montagne. Donc, témoin de cette évolution des ascètes, c'est quelque chose d'assez nouveau, ce que nous montre ce livre des degrés, parce que jusque-là, le monde syriaque n'avait connu que des ascètes à la manière ancienne, on va te parler tout à l'heure, c'est-à-dire des ascètes qui étaient partie prenante de la communauté. Le livre des degrés prend en compte cette division entre ce qu'il appelle les justes et les parfaits, mais en même temps, il va essayer, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, de briser en quelque sorte cette séparation et d'introduire un dynamisme. Voici ce qu'il dit, par exemple, dans le Mémoré 9, donc discours, on peut dire, 9, Logos, Dieu a destiné l'homme à devenir un être liturgique. Déjà, c'est intéressant comme entrée en matière. Adam était saint et parfait à la façon des veilleurs. Les veilleurs ici, ce sont les anges. Entièrement dépouillé de ce qui est sur terre, il habitait dans l'esprit dans les cieux, par l'esprit dans les cieux avec les anges. L'esprit revêtu de la gloire de son créateur. Mais Adam ne s'est pas maintenu dans cet état. Et son rôle de liturge cosmique en a été perturbé. Et la terre, et il est descendu sur terre. C'est pourquoi désormais il se contente de l'ombre des biens véritables. Donc il y a une chute d'Adam qui a perdu en quelque sorte la jouissance de cette liturgie cosmique et il bénéficie désormais de l'ombre des biens véritables auxquels il était destiné. Au lieu d'être revêtu de la gloire de Dieu, il est revêtu de vêtements tissés de mains d'homme. Au lieu du pain des anges, il se nourrit d'un pain gagné à la sueur de son front. Au lieu de la société des anges, il se contente de la communauté du mariage, du foyer de la communauté de l'Église locale terrestre. Tous les biens de ce monde ne sont pas mauvais, mais pour l'auteur, ils ne correspondent pas au dessein primitif de Dieu, elles ont un sens symbolique orienté vers l'au-delà. Donc ce que nous voyons, si vous voulez, dans le monde visible, ne s'explique que par quelque chose de supérieur, une réalité spirituelle supérieure. Et le rôle, si vous voulez, des choses matérielles est de nous conduire vers les réalités spirituelles. Leur but est de reconduire l'homme à la communion avec les biens véritables qui sont ceux du ciel et la liturgie est un des aspects de cette économie par laquelle l'homme est ramené progressivement à sa véritable nature spirituelle. C'est-à-dire que la liturgie terrestre est un biais par lequel l'homme peut regagner sa véritable nature spirituelle. C'est-à-dire que c'est une, c'est une défense de la liturgie et d'église en tant que réalité matérielle. Donc ça va contre, si vous voulez, une opposition marquée à tous ceux qui voudraient s'abstraire en quelque sorte de l'église et des sacrements. Donc ce livre des degrés est particulièrement intéressant. La théologie est un aspect de cette économie par laquelle l'homme est ramené progressivement à sa véritable nature spirituelle. Donc il y a un progrès qui s'effectue, ça c'est ce qui caractérise un peu ce livre des degrés, c'est cette évolution dynamique, ce caractère dynamique, c'est-à-dire qu'on passe, on progresse, c'est par un cheminement qui le fait passer d'abord par une liturgie sensible et corporelle que le chrétien va retrouver sa citoyenneté céleste. Ce cheminement exigera qu'il renonce peu à peu aux choses ici-bas pour permettre au Christ, le second Adam, de grandir en lui et de l'associer de nouveau à cette grande liturgie cosmique qui était le but de la création. Donc, oui, enfin, je veux dire, il n'y a pas de, je ne vois pas d'éléments hérétiques ou gnostiques ou que. Non, il y a une dynamique dans l'Église qui vise à faire progresser le chrétien pour lui faire, pour le rapprocher, pour lui faire participer à la grâce de l'Esprit Saint. Donc c'est ça le but de l'Église. Et donc c'est bien de ça dont on nous parle là. Et en participant à cette grâce de l'Esprit Saint, le fidèle recouvre en quelque sorte sa dignité, la dignité qui a été perdue après la chute d'Adam. Ce cheminement exigera qu'il renonce peu à peu aux choses d'ici-bas. Donc il y a un renoncement quand même à faire. Bon, donc là, il y a. Il y a une forme d'ascétisme, mais dans l'Église, il y a aussi une forme d'ascétisme. Il y a un ascétisme chrétien, c'est-à-dire. Bon, et c'est l'ascétisme de l'Église. Donc, il faut renoncer d'une certaine façon. au bien de ce monde pour gagner les réalités célestes. Le premier degré, je crois, de l'échelle sainte, c'est périapotagi, c'est-à-dire du renoncement. Voilà, l'échelle sainte de Saint Jean Climac. De grandir en lui, donc le montador, de grandir en lui et de l'associer de nouveau à cette grande liturgie cosmique qui était le but de la création. Donc c'est là. Il a une vision qui est assez superbe d'une liturgie cosmique qui est le but de la création et auquel l'homme participe. Mais ceci n'implique aucunement un mépris de la prière communautaire avec ses rites qui sont inévitablement corporels. Là, bon, c'est-à-dire, il prend nettement position contre toutes les tendances excessives qui voulaient, en quelque sorte, supprimer, mettre entre parenthèses l'Église, tout simplement. Ceci reste toujours un passage nécessaire quand l'homme ne doit pas, que l'homme ne doit pas éviter. Avant d'atteindre la prière spirituelle, il faut d'abord offrir le sacrifice, comme on fait habituellement dans les églises, et même les instruments de musique ont leur valeur. Bon, ça, c'est vrai que les églises syriaques ou les églises coptes ont des liturgies avec des instruments de musique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu liturgie. Bon, l'église copte utilise des sistres, par exemple, ou des cymbales dans la liturgie. Donc, voilà. Donc, en résumé, il dit Dieu a fait deux mondes et deux liturgies, afin qu'à partir de la liturgie visible apparaisse celle qui est invisible. Ainsi, l'alliance visible est semblable à l'alliance cachée, et l'église visible semblable à l'église cachée, et la prière visible à la prière cachée, et le sacrifice visible au sacrifice caché, et les charismes visibles au charisme caché. En un mot, la liturgie qui est sur terre est entièrement semblable à celle qui est dans les cieux. Aussi, ceux qui se tiennent dans l'Église visible, en mangeant du sacrifice visible, sont vivants dans l'Église cachée au ciel, et mangent de l'autel caché qui est au ciel. Liturgie ineffable qui dépasse toute expression humaine. Mais le passage d'une liturgie à l'autre s'accomplit en traversant trois églises, celle de la communauté, celle du cœur et finalement celle du ciel. L'église d'en bas, donc son autel et son baptême, enfantent les hommes comme des nourrissons. Ils y sucent le lait jusqu'au sevrage, mais lorsqu'ils commencent à grandir, ils font de leur corps des temples. C'est ce que dit Saint Paul, par exemple. C'est ce que sous-entend le Christ aussi. Le corps devient un temple. Le corps du chrétien devient le temple du Saint-Esprit. Et leur cœur des autels. Ils commencent à grandir, ils font de leur corps d'autels, tout en mangeant une nourriture solide et meilleure que le lait, jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaits et mangent le Seigneur lui-même en toute vérité. Comme il l'a dit, celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. Ceux-là parviendront à cette église d'en haut, qui les rendra parfaits. Ils entreront dans la cité de Jésus, notre roi, et serviront dans ce palais grand et excellent qui est la mère de tous les croyants. Donc aucune de ces étapes ne doit être négligée. Si nous méprisons cette église visible et si nous nous séparons d'elle et de son autel visible, du sacerdoce visible et du baptême qui purifie, jamais notre corps ne deviendra un temple, ni notre cœur un autel et une source de louange. L'église d'en haut, son autel, sa lumière, son sacerdoce, ne serait pas révélé non plus. Là, tous les saints sont rassemblés, ceux qui ont le cœur pur, et habitent la gloire et se délèguent de sa lumière. Là aussi, un grand thème de la spiritualité syriaque, le thème de la gloire. La gloire et de la lumière. Ça revient très souvent dans les textes syriaques. Participation à la gloire et à la lumière. qui se rattache au thème sémitique de la gloire de Dieu, que dans l'Ancien Testament on appelle la Shekhina, c'est-à-dire la manifestation visible de Dieu qui accompagnait les Hébreux pendant l'Exode, par exemple. Car ils n'ont pas méprisé cette éducation qui chaque jour enfante et éduque. Voilà, donc c'est à partir de la liturgie terrestre que les chrétiens vont découvrir dans leur cœur cette prière continuelle. Donc là, il y a aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est l'insistance sur la prière, pas seulement sur la prière, mais sur la prière continuelle. C'est-à-dire qu'on devine, si vous voulez, qu'il y a une progression qui est liée aussi aux états de prière. Et dans la spiritualité orthodoxe, la prière continuelle, c'est ce qu'on appelle aussi la prière du cœur. Quelle est la différence? Et là, c'est ce qu'il parle du cœur. Hein, pourquoi on dit la... Quelle est la différence entre prière de Jésus et prière du cœur? Eh bien, je vais vous la dire. C'est que la prière de Jésus, c'est une prière que nous disons, nous, qui est donc prononcée généralement sans faire de bruit, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle aussi la prière spirituelle. Mais ça veut simplement dire qu'on prie sans faire de bruit. Noaiteki prosevki, la prière de l'intellect ou la prière spirituelle, ça veut simplement dire que l'on prie sans faire de bruit. Tout le monde peut faire pour réciter la prière de Jésus. La prière du cœur, c'est tout à fait autre chose dans la spiritualité orthodoxe. La prière du cœur, c'est un charisme. C'est un charisme qui est accordé à l'homme. Et c'est lorsque la prière se dit dans la personne, indépendamment de sa volonté. Il y a donc une très grosse différence, si vous voulez, entre les deux. Et évidemment, ça marque aussi une progression spirituelle importante. Et toute cette progression spirituelle importante s'intègre dans ce qu'on peut appeler la divinisation du chrétien. Voilà. Donc c'est très important de bien... Parce que souvent on mélange un peu les choses et on dit un peu des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Pour terminer, simplement, je voudrais peut-être insister sur deux personnages, quand même. Il me semble que c'est important. Saint Éphrem, d'une part. Saint Éphrem, qui est connu par ses hymnes, qui est connu par ses textes poétiques, qui est connu aussi par son commentaire justement du Diatessaron, dont on a déjà parlé. Beaucoup de ces hymnes ont été traduits, sont disponibles en français, vous les trouverez dans la collection Spiritualité Orientale, Bellefontaine, traduit à partir de la traduction de Sébastien Brock, qui est le grand syriacisant. Il se situe, entre 303 et 338, donc au IVe siècle. Il est né à Nisib, dans une famille chrétienne. C'est un saint, c'est un ascète. Et il devient un fils de l'Alliance, justement. Nekiyama, c'est un fils de l'Alliance, c'est-à-dire un de ces personnages qui vivaient d'une façon radicale le christianisme, comme des moines, si vous voulez, mais des moines qui vivraient dans la communauté, c'est-à-dire qui ne se sépareraient pas de la communauté. Il connaît la Bible à fond, il a une expression poétique remarquable, et après, on a vu qu'après la prise de la ville de Nisib, il va, par les Perses, il va s'établir à Édesse, où il va diriger l'école de la ville. Il n'a jamais été que diacre. Donc on connaît beaucoup de compositions liturgiques, il y a des épisodes légendaires, il y a beaucoup de textes qui lui ont été attribués et qui ne sont pas de lui. Il meurt en 373. Tous ses écrits sont écrits dans un style extrêmement poétique, en prose rythmée, et ils vont influencer directement un autre grand personnage de l'Église grecque, c'est Saint Romanos le Mélode. Et ce genre littéraire de prose rythmée, qui était très des hymnes, qui était donc très en faveur, très pratiqué par Saint Éphrem, va influencer directement ce qu'on appelle les kondakiades. Les kondakiades en grec viennent de là. En fait, c'est un peu la source des kondakiades de l'Église byzantine et des hymnies. À l'origine, donc, on a aussi des sermons qui sont repris par, qui se terminent par une clausule qui est reprise par l'assistance. C'est effectivement aussi la structure de l'hymne akathiste. Et on trouve dans Saint Éphrem des thèmes qui sont très curieux. On trouve des thèmes qui remontent à une vieille tradition mésopotamienne. Par exemple, on a un thème littéraire qui utilise un débat formel entre deux adversaires, chacun arguant de sa supériorité sur l'autre. C'est un genre littéraire qui remonte à la littérature sumérienne. Ainsi, on a un débat, par exemple, entre la mort et Satan, par Saint Éphrem. Sur le mariage et la virginité. À chaque fois, avec des disputes de préséance de l'un sur l'autre. Donc ça, c'est une œuvre. Ça vient du fin fond de la Mésopotamie. On a aussi des traductions sémitiques qui ont influencé Saint Éphrem, notamment ce qu'on appelle les targoums. Qu'est-ce que c'est que les targoums? Il faut quand même le dire. Les targoums, c'est, si vous voulez, sont les Juifs ne comprenaient plus du tout la Bible hébraïque, et quand on lisait la Bible hébraïque de façon publique, en particulier dans les synagogues, il y avait quelqu'un qui la traduisait dans la langue parlée. La langue parlée qui était l'araméen. Les targoums, c'est ça. Les targoums, c'est une traduction, mais souvent c'est une traduction un peu fleurie, un peu, avec des traditions, des légendes, etc. Une traduction un peu améliorée, si on veut, du texte. Des midrashim aussi. Midrash, c'est un commentaire allégorique du texte biblique. Donc on a chez lui tous ces éléments, plus des éléments qui viennent du monde grec. Et en particulier, il est possible qu'il ait connu l'histoire ecclésiastique de Théodore de Cyre. Donc c'est un poète théologien. Et ce qui est remarquable chez Saint Éphrem, c'est qu'il s'exprime sur la théologie de façon poétique. Il n'a aucun discours aucune rhétorique abstraite. Tout ce qu'il exprime, il l'exprime de façon poétique. Et c'est profondément théologique ce qu'il dit. Et pour lui, au contraire, on a l'impression qu'il se méfie des définitions trop rigides qui pourraient, en quelque sorte, détruire le mystère. Restreindre, l'étouffer. Et il va polémiquer contre les hérétiques, il va polémiquer contre les Ariens. L'expression poétique est pour lui un mode apophatique d'expression. C'est-à-dire qu'il laisse transparaître derrière son mode d'expression, une autre réalité. Et c'est une théologie spirituelle qui est pénétrée d'enthousiasme, d'admiration, qui est tout à fait remarquable. L'Église catholique en a fait un docteur, je crois, de l'Église. Je crois que c'est en 1920, l'Église catholique a fait de saint Éphrem le docteur de l'Église. Alors que c'est quelqu'un qui s'exprimait, qui ne s'est jamais exprimé de façon spéculative. Deuxième grand personnage, peut-être, qui va faire le lien avec la suite, c'est-à-dire avec les mystiques syriaques, c'est Jean d'Apamée. On sait que plusieurs auteurs ont porté le même nom. Il est possible donc qu'il y ait plusieurs auteurs, mais il semble que finalement, il y ait au moins deux Jean d'Apamée. Et dans toute la tradition syriaque, il va être influencé par Jean d'Apamée. Et Jean d'Apamée va reprendre un thème qui est commun à toute la tradition syriaque, c'est celui des degrés de la vie spirituelle. On va retrouver ça aussi bien chez les Nestoriens, chez Joseph Hazaya, chez Jean de Daliata ou saint Isaac le Syrien. Lui-même, donc, Jean d'Apamée date se situe entre 430 et 450. Il est très chalcédonien, avec une tendance pro-cyrillienne, c'est-à-dire, un petit peu monophysite sur les bords, quoi, et a eu une très grosse influence en général. Ses œuvres sont les dialogues sur l'âme et les passions des hommes, trois lettres, trois traités spirituels, un décalogue, des lettres et des traités. Et il y a beaucoup d'œuvres inédites en syriaque et des œuvres perdues. Place essentielle chez lui de la tradition biblique, méditation de l'écriture, il est proche du livre des degrés, il laisse présager le développement de la mystique nestorienne, mais entre lui et les grands des mystiques, il va se situer un autre personnage, et c'est ce que nous verrons dans le prochain cours, c'est Évagre, Évagre le Pontique, la réception d'Évagre qui va jouer un très grand rôle pour la formation de la mystique syriaque. Non seulement Évagre, donc lui, on peut dire qu'Évagre vient de l'extérieur, mais aussi des homélies macariennes qui étaient d'origine syriaque. Donc, il y a chez lui un sens de la pédagogie divine, pédagogie spirituelle qui se caractérise par la discrétion et l'humilité. Alors, discrétion, alors là, c'est un terme technique là aussi. On va dire le discernement. Et l'humilité. L'humilité, c'est l'abolition de tout signe extérieur qui pourrait manifester qui pourrait entraver une transparence de l'âme à l'amour de Dieu. L'âme doit devenir transparente, doit se instaurer. Donc il y a un travail chez lui sur l'humilité qui se retrouve chez d'autres mystiques syriaques et en particulier qui vont insister sur, par exemple, nous avons Rabban Boustania qui va insister sur le fait que l'humilité suffit. Chez Jean d'Apamée, nous avons des hymnes, un émerveillement, une contemplation formulée en termes d'émerveillement, de stupeur, mais il va influencer la mystique par sa conception des étapes de la vie spirituelle, étapes de la montée vers Dieu. Trois étapes qui correspondent à une division présente chez les hommes. Alors, il distingue les corporels et somatiques, ceux qu'il appelle les psychiques et ceux qu'il appelle les spirituels ou pneumatiques. Les somatiques, les corporels et somatiques sont ceux qui s'adonnent au plaisir du corps et convoitisent de la nature et du corps. Bon, les psychiques, le psychique s'est élevé au-dessus des choses du corps et s'est approché de l'ordre de la nature, de l'âme. Il combat contre la méchanceté de ses pensées et met un frein à son âme pour poursuivre, pour ne pas suivre, pardon, ses instincts. Les spirituels sont au-dessus de toute pensée corporelle, sont des pensées qui sont rejetées et dont tout l'entendement se meut dans la sagesse qui est en Dieu. Donc on a, si vous voulez, une division. Mais cette division, on la trouve chez saint Paul. Je vous rappelle que saint Paul parle des psychiques et des pneumatiques. Qu'est-ce que c'est que les psychiques pour saint Paul? Ce sont les gens qui vivent suivant leur âme, psyché. C'est-à-dire suivant leur passion, en fait. Et il appelle pneumatiki, ceux qui vivent suivant l'esprit. Donc il distingue, bien chez saint Paul, cette distinction déjà, entre d'une part les psychiques et d'autre part les pneumatiques. Donc finalement, cette division est préfigure d'une certaine façon la division qu'on va retrouver chez Jean d'Apamée et qu'on va retrouver par la suite chez les spirituels syriaques. Donc on va retrouver cette division avec des nuances chez les grands mystiques, dont saint Isaac et Ninive, dont on reparlera, saint Isaac le Syrien, et Jean de Damietta au 8e siècle. Voilà. Donc je crois qu'on a suffisamment introduit, je pense, le sujet. Vous voyez à quel point cette pensée, cette mystique spirituelle syriaque est fascinante. Parce qu'il ne s'agit pas d'une mystique intellectuelle abstraite, il ne s'agit pas d'une spiritualité, mais il s'agit toujours, toujours de quelque chose qui est vécu. Qui est vécu de façon concrète et qui s'exprime et c'est aussi de façon poétique. Et que finalement, cette tendance va irriguer aussi la pensée orthodoxe, heureusement, parce que si vous voulez, il faut bien reconnaître que lorsqu'on lit les textes des vagues holocontiques, c'est un peu sec. Quand il vous explique que le christianisme, c'est la maîtrise des passions et la vie suivant la raison, enfin, si vous. Oui, enfin, c'est suivant le logos, oui, dit comme ça, c'est vrai, mais. Bon, c'est quand même extrêmement sec et bref. Ça ne veut pas dire que ce soit faux. Justement, et c'est ça le grand danger aussi auquel il faut faire attention, c'est-à-dire que les historiens de la spiritualité ont eu tendance à opposer, dans le passé, je veux dire, dans les années 20, 30, par là. Maintenant, on a compris que c'était finalement, ça n'a aucun sens d'opposer, et que ce sont, ils disent la même chose, mais chacun s'exprime au travers de sa culture. Au travers de sa culture, et d'autre part, il y a une progression, il y a un dynamisme dans la révélation qui se manifeste aussi dans la progression, dans la spiritualité même de l'Église. Si on ne voit pas ce dynamisme, on ne comprend pas. On fait des étapes, on oppose les choses, alors qu'il s'agit d'un même courant qui part et qui s'enrichit, qui progresse, c'est-à-dire que la révélation n'est pas faite, n'est pas terminée, mais l'Esprit Saint ne cesse pas de travailler dans ce corps qu'est l'Église. et dont nous bénéficions jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie.